Chapitre 43. La honte du soleil fut publiée en octobre. Quand Martin Eden coupa les ficelles du colis postal et vit la demi-douzaine d'exemplaires justificatifs s'étaler sur la table, il fut pris d'une grande tristesse. Quelques mois plus tôt, cet envoi l'eût rendu fou de joie. Aujourd'hui, il le déballait avec une froide indifférence. Son livre. C'était son premier livre et son pouls ne s'était même pas accéléré. La chose ne signifiait plus grand-chose pour lui. Elle représentait tout au plus une rentrée d'argent en perspective, et l'argent n'avait plus guère d'importance à ses yeux. Il emporta un exemplaire dans la cuisine et en fit cadeau à Maria, qui parut fort intriguée. « C'est de moi, » expliqua-t-il. « Je l'ai écrit ici, dans la chambre, et vos soupes de légumes y sont pour quelque chose. Gardez-le, il est à vous. Ça vous fera un souvenir. » Il ne disait pas cela par vantardise pour lui en remontrer. Son seul motif était de lui faire plaisir, de la rendre fière de lui, de justifier la confiance qu'elle lui avait témoignée. Elle rangea le livre dans la pièce principale, au-dessus de la Bible familiale, comme un objet sacré, un fétiche qui rachetait son passé peu glorieux de blanchisseur. Car, bien qu'elle ne pût en lire une seule ligne, elle était convaincue que c'était un chef-d'œuvre de la première à la dernière page. C'était une femme simple, pragmatique et dure à la peine, mais elle avait du cœur et croyait en lui. Il avait reçu ses exemplaires de la honte du soleil avec indifférence, et ce fut avec la même indifférence qu'il lut chaque semaine les critiques que lui faisait parvenir l'agence de presse. Son livre faisait déjà couler beaucoup d'encre et ferait bientôt couler beaucoup d'or dans son bas de laine. Il pourrait établir Lidzi, honorer toutes ses promesses et garder cependant de quoi bâtir son château de feuillage. La Singletree Darnley & Company avait prudemment limité le premier tirage à 1500 exemplaires, mais l'accueil fait à l'ouvrage avait vite donné lieu à une seconde édition de 3000, puis à une troisième de 5000. Une maison londonienne acheta les droits de publication pour l'Angleterre et on annonça presque au même moment que des traductions françaises, allemandes et scandinaves étaient en préparation. L'attaque contre l'école de Maeterlinck n'eût pas pu tomber à un meilleur moment. Une farouche controverse fut lancée. Saliby et Haeckel s'en mêlèrent et, se trouvant pour une fois du même avis, prirent la défense de la honte du soleil. Crookes et Wallace se rangèrent dans le camp adverse, tandis que Sir Oliver Lodge tenta de formuler un compromis susceptible de corroborer ses propres théories cosmiques. Les disciples de Maeterlinck se rallièrent au drapeau du mysticisme. Chesterton fit rire son monde avec une série d'essais faussement neutres sur le sujet et tous, partisans et adversaires dans le même sac, furent balayés d'un coup de plume magistral par George Bernard Shaw. Chacun y alla de son couplet et même les plus obscurs scribouillards eurent à cœur de descendre dans l'arène. C'est tout à fait exceptionnel de voir un essai critique et philosophique se vendre comme un roman, écrivit à Martin la Singletree Darnley & Company. Vous n'auriez pas pu choisir un meilleur sujet. Tous les paramètres vous donnent raison. Inutile de vous dire que nous ne chômons pas. Plus de 40 000 exemplaires ont déjà été vendus aux États-Unis et au Canada et une nouvelle édition est sous presse. C'est tout juste si nous arrivons à satisfaire la demande. Une demande que nous avons grandement contribué à créer, d'ailleurs, dans la mesure où nous avons déjà dépensé plus de 5 000 $ en publicité. Le livre est appelé « à battre des records ». Nous avons pris la liberté de vous adresser un contrat pour votre prochain livre que vous voudrez bien trouver 6 juin. Vous remarquerez que nous avons fixé vos droits d'auteur à 20%. Aucune maison d'édition sérieuse n'oserait vous faire une offre plus avantageuse. Si nos conditions vous conviennent, veuillez inscrire le titre de votre livre dans l'espace blanc prévu à cet effet. Nous n'avons aucune exigence quant au genre de l'ouvrage, n'importe quel texte sur n'importe quel sujet. Si vous en avez déjà écrit un, tant mieux, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Dès réception du contrat signé, nous serons heureux de vous faire parvenir une avance de 5 000 $. Vous voyez, nous avons entièrement confiance en vous. Nous aimerions également discuter avec vous d'un éventuel contrat de longue durée, mettons de 10 ans, au terme duquel vous nous céderiez l'exclusivité des droits de publication en volume de l'ensemble de votre production. Mais nous en reparlerons plus tard. Martin reposa la lettre et se livra à une petite opération de calcul mental. 15 cents multipliés par 60 000 donnaient un produit de 9 000 $. Il signa le contrat, inscrivit la fumée de la joie dans l'espace blanc et l'envoya à l'éditeur avec les 20 nouvelles qu'il avait écrites avant de mettre au point sa recette d'historiette pour les journaux. Un chèque de 5 000 $ lui fut aussitôt expédié. « J'aimerais que vous veniez en ville avec moi cet après-midi vers 2 heures, » dit Martin à Maria le matin où il reçut le chèque. « Ou plutôt non, retrouvez-moi à l'angle de la 14e et de Broadway à 2 heures. Je vous y attendrai. » Elle fut au rendez-vous, mais dans son esprit, seul le mot « chaussure » pouvait être la clé du mystère, et elle fut cruellement déçue de voir Martin passer sans s'arrêter à côté d'une cordonnerie et l'entraîner dans une étude de notaire. Ce qui se passa ensuite resta à jamais gravé dans sa mémoire comme un rêve. De beaux messieurs lui sourirent avec bienveillance en s'entretenant avec Martin. Une machine à écrire crépita. Des signatures furent apposées au bas d'un imposant document. Le propriétaire de la maison qu'elle habitait était là aussi, en personne, pour signer, et, quand tout fut terminé, celui-ci lui dit en l'accompagnant sur le trottoir « Eh bien, Maria, vous ne serez pas obligée de me payer 7,5 $ ce mois-ci. » Maria fut trop abasourdie pour lui répondre. « Ni le mois prochain, ni le suivant, » continua le propriétaire. Elle le remercia, confuse, comme s'il lui eût fait une faveur. Ce ne fut qu'après être rentré à Auckland Nord, après en avoir discuté avec les siens, et après enquête de l'épicier portugais, qu'elle comprit réellement qu'elle était la propriétaire de la petite maison où elle vivait et pour laquelle elle avait si longtemps payé un loyer. « Pourquoi vous êtes plus client chez moi ?» demanda l'épicier portugais à Martin en l'abordant à sa descente du tram. Martin lui expliqua qu'il ne faisait plus sa cuisine lui-même, mais accepta de venir boire un verre de vin dans sa boutique. Et l'épicier lui servit sa meilleure bouteille. « Maria, » annonça Martin ce soir-là, « je vais vous quitter. » Et vous allez bientôt partir d'ici, vous aussi. Vous pourrez mettre la maison en location. Vous avez un frère à San Leandro, ou à Hayward's, je crois, et il est laitier. Voici ce que vous allez faire. Vous allez renvoyer tout votre linge à laver, sans le laver. Sans le laver, vous m'entendez bien? Et vous irez trouver votre frère. Dites-lui de venir me voir. Je serai au Métropole, à Auckland. Il saura reconnaître un bon ranch laitier quand il en verra un. Et c'est ainsi que Maria devint propriétaire d'une maison de rapport, d'une laiterie avec 2 employés, et, bien que toute sa marmaille portât souliers et fréquentât l'école, d'un compte bancaire en constante augmentation. Rares sont celles qui rencontrent un jour le prince charmant. Maria, elle, qui travaillait dur et ne rêvait jamais de prince charmant, rencontra le sien sous l'apparence d'un ancien blanchisseur. Pendant ce temps, des voix commençaient à s'élever pour demander « Qui est ce Martin Eden ?» Il avait refusé de fournir une notice biographique à ses éditeurs, mais la presse ne voulut pas être en reste. Auckland était sa propre ville, et les journalistes n'eurent aucun mal à rassembler des informations en posant des questions à droite et à gauche. Tout ce qu'il était et n'était pas, tout ce qu'il avait fait, et surtout ce qu'il n'avait pas fait, fut livré en pâture au public, avec des instantanés et des photographies posées, celle-ci par l'entremise d'un photographe de quartier qui avait autrefois tiré le portrait de Martin et s'était empressé de mettre ses clichés sur le marché avec un copyright. Au début, dégoûté au plus haut point par les magazines et la société bourgeoise, Martin lutta contre la publicité. Puis, de guerre lasse, il finit par céder, considérant qu'il n'avait pas le droit de fermer sa porte à des envoyés spéciaux venus parfois de très loin pour le voir. Et puis, il y avait 24 heures dans une journée, et, comme il n'écrivait ni n'étudiait plus, il avait du temps à revendre et ne savait comment le tuer. Il se prêta donc au jeu, accorda des interviews, donna son opinion sur la littérature et la philosophie, accepta même des invitations de la bourgeoisie. Il changeait d'attitude, adoptait la solution de facilité et se laissait vivre. Il pardonna à tout le monde, même au petit reporter qu'il avait dépeint comme un rouge, et à qui il concéda une pleine page d'entretien avec des photographies spéciales. Il retrouvait Lizzie de temps en temps. Il était clair qu'elle regrettait la gloire dont elle le voyait auréolée et qui élargissait le fossé entre eux. Dans l'espoir peut-être de le combler un peu, elle se laissa persuader de suivre des cours du soir et habillée par une couturière chic aux tarifs exorbitants. Elle s'améliorait de jour en jour, mais Martin finit par se demander s'il avait raison d'agir ainsi, sachant que toute la bonne volonté de Lizzie n'était destinée qu'à lui plaire. Elle essayait de se donner de la valeur à ses yeux, le genre de valeur qu'il semblait priser. Pourtant, il ne lui laissait aucun espoir, la traitait comme une sœur et la voyait rarement. Trop tard fut lancé sur le marché par la Meredith Lowell Company au sommet de sa popularité. Et comme c'était un roman, son succès en librairie fut encore plus fracassant que celui de La Honte du Soleil. Plusieurs semaines durant, Martin eut deux livres en tête de la liste des meilleures ventes, ce qui était une performance sans précédent. L'histoire plaisait non seulement aux amateurs de fiction, mais encore aux amateurs de La Honte du Soleil, séduits par la puissance de son style et la dimension cosmique qu'il avait mise dans ses aventures maritimes. Après avoir attaqué la littérature mystique, il proposait un exemple magistral de la littérature qu'il prônait, révélant ainsi un génie rare qui lui permettait d'être critique et auteur avec un égal brio. L'argent coulait à flots, la gloire nimbait son front. Il traversait le ciel de la littérature comme une étoile filante, et le tapage qu'il provoquait dans son sillage l'amusait. Une chose, cependant, l'intriguait, une petite chose de rien qui eût fort étonné le monde, non pas la chose en soi, mais le fait qu'une pareille broutille pût l'intriguer. Le juge Blount l'invita à dîner. C'était cela, le petit rien qui allait bientôt prendre à ses yeux des proportions immenses. Il avait insulté le juge Blount. Il l'avait maltraité en public, et voilà que le juge Blount, le rencontrant dans la rue, le conviait à sa table. Martin avait rencontré le juge Blount en maintes occasions par le passé, chez les Morse, et jamais celui-ci n'avait songé à l'inviter. Pourquoi maintenant? Il n'avait pas changé, il était toujours le même Martin Eden. Où était la différence? Dans le fait que son nom apparut sur des couvertures de livres? Mais il écrivait déjà à l'époque. Ce n'était pas une nouveauté. Ses œuvres, aujourd'hui imprimées, avaient été composées au moment même où le juge Blount ironisait sur Spencer et ses idées. La soudaine bienveillance du juge Blount ne pouvait être fondée sur aucune estime réelle, mais sur des valeurs parfaitement artificielles. Martin accepta l'invitation en ricanant sous cap, avec une complaisance qui le stupéfia lui-même. Au cours du dîner, où il fut célébré comme le roi de la soirée en présence d'une demi-douzaine de notables accompagnés de leurs épouses, le juge Blount, chaudement appuyé par le juge Hanwell, pria instamment Martin de soumettre sa candidature au Styx, un club très sélect auquel appartenaient les gens riches et en vogue. Martin refusa, de plus en plus perplexe. Il se débarrassait progressivement de sa pile de manuscrits. Il était submergé par la demande. On avait découvert qu'il était un styliste avec, en plus, quelque chose dans le ventre. La Northern Review, qui avait publié Le berceau de la beauté, lui commanda une demi-douzaine d'essais semblables. Il les eut volontiers fournis, en puisant dans la pile, si le Burton's Magazine, enfin spéculateur, ne lui en eut déjà commandé 5, à $500 l'un. Il répondit qu'il n'accepterait la commande qu'à $1000 l'essai. Il n'avait pas oublié que tous ces manuscrits avaient été refusés en leur temps par les magazines mêmes qui se les arrachaient aujourd'hui, et refusés sans embâge, par des formules glacées et stéréotypées. Il lui avait fait suer sang et eau à l'époque, et il leur retournait à présent la politesse. Le Burton's Magazine accepta son prix. Les 4 essais qui lui restaient furent cédés au Macintosh Monthly au même tarif. Tant pis pour la Northern Review, qui fut incapable de suivre les enchères. Ainsi virent le jour les grands prêtres du mystère, les marchands de rêves, le maître étalon de l'ego, philosophie de l'illusion, Dieu et la glèbe, art et biologie, critiques et éprouvettes, poussière d'étoiles et la dignité du prêt sur gage, chacun d'eux soulevant des tempêtes et des tapages qui mirent longtemps à retomber. Des rédacteurs lui écrivirent en lui demandant de fixer lui-même ses prix, ce qu'il fit, mais toujours pour des œuvres déjà rédigées. Il refusait catégoriquement de se remettre au travail. La perspective de reprendre la plume l'affolait. Il avait vu Brissenden mis en pièces par le public, et malgré la faveur dont il jouissait lui-même désormais, il continuait à mépriser ce public. Sa popularité lui donnait l'impression de trahir Brissenden, mais il avait décidé de presser le citron tant qu'il était juteux, et de rembourrer son matelas de dollars. Il recevait des lettres comme celle-ci. Il y a environ un an, nous avons été au regret de refuser votre collection de poèmes d'amour. Ces œuvres nous avaient fort impressionnés à l'époque, mais les circonstances et certaines dispositions déjà prises nous avaient empêchés de les retenir. Si vous les avez toujours et si vous voulez bien nous les faire parvenir, nous serons très heureux de publier la collection entière au prix qui sera le vôtre. Nous sommes également prêts à vous faire une offre très avantageuse pour une parution en volume. » Martin déterra sa vieille tragédie en vers classiques et la leur envoya à la place des poèmes. Avant de la poster, il la relut et la trouva laborieuse, mal faite, en un mot, nulle. Mais il l'envoya tout de même, et elle fut publiée, au grand dam du rédacteur. Le public fut indigné et incrédule. Le grand Martin Eden ne pouvait pas avoir commis un pareil pensum. Les uns murmurèrent que c'était un faux grossier, d'autres que c'était l'œuvre d'un nègre stipendié par Martin Eden qui, au fait de sa gloire, avait voulu suivre l'exemple de Dumas père. Mais, quand il expliqua que c'était un brouillon de jeunesse et que le magazine avait fait des pieds et des mains pour la voir, on se gaussa haut et fort du comité de rédaction qui dut donner sa démission. La tragédie ne fut jamais publiée en volume, mais Martin Eden empocha néanmoins l'avance promise sur ses droits d'auteur. Le Coleman's Weekly lui envoya un long télégramme qui avait dû coûter près de $300 pour lui commander une série de 20 articles à $1000 l'un. On lui demandait de voyager à travers les États-Unis, tout frais payé, et de choisir les sujets qui l'intéressaient. Il avait toute liberté d'expression. La seule condition qu'on lui imposait était de se limiter aux États-Unis. Martin envoya son refus et ses regrets par câble aux frais du destinataire. WikiWiki, publié par le Warren's Monthly, fut un succès instantané. Il parut en volume, avec une grande marge et de superbes illustrations, et se vendit jusqu'au dernier exemplaire pendant la période des vacances. La critique unanime déclara qu'il avait d'ores et déjà sa place parmi les classiques. Le public, en revanche, réserva un accueil assez frais à la fumée de la joie. L'audace de ces historiettes choquait la morale conventionnelle et les préjugés bourgeois. Cependant, quand on apprit que Paris saluait comme un chef-d'œuvre la traduction qui en fut immédiatement faite, les lecteurs américains et anglais prirent le train en marche et achetèrent tant d'exemplaires que Martin contraignit la raisonnable maison Singletree Darnley & Company à lui payer des droits exorbitants de 25% pour un troisième livre et de 30% pour un quatrième. Ces deux volumes rassemblaient toutes les nouvelles qu'il avait écrites, déjà parues ou en cours de publication dans des périodiques. Le son des cloches et ses histoires d'épouvante constituèrent le premier recueil. Le second était composé de l'aventure, le pot, le vin de la vie, le tourbillon, la rue des mauvais coups et de 4 autres histoires. La Lowell Meredith Company obtint les droits de publication en volume de tous ses essais et la Maximilian Company ceux du Chant de la mer et du Cycle d'amour, lequel paraissait déjà en livraison périodique dans le Ladies Home Companion pour un prix mirifique. Martin poussa un soupir de soulagement quand le dernier manuscrit fut casé. Le château de feuillage et la goélette blanche étaient à portée de main. Brissenden lui avait affirmé qu'aucune œuvre digne de ce nom n'avait sa place dans un magazine. Eh bien, son succès était la preuve du contraire, en apparence du moins, car, en son fort intérieur, il avait le sentiment que Brissenden n'avait pas entièrement tort. Ce n'était pas ses œuvres qui avaient du succès, c'était son nom, depuis la sortie de la Honte du Soleil. Avant cela, les œuvres en elles-mêmes avaient été systématiquement refusées par les magazines. Sans la controverse déclenchée par la Honte du Soleil, elles n'eussent peut-être jamais vu le jour, n'eussent en tout cas jamais été portées par un tel raz-de-marée. La prudence de Singletree Darnley & Company l'attestait. Ils avaient commencé par une édition de 1500 exemplaires qu'ils n'étaient même pas sûrs de vendre. C'étaient des éditeurs expérimentés et ils avaient été les premiers surpris par son succès. Ils continuaient à considérer la chose comme un miracle. Toutes leurs lettres l'attestaient. Ils n'essayaient pas d'expliquer le phénomène. Il n'y avait pas d'explication. Il n'y avait qu'à le constater. C'était sans précédent. Mais le fait était là. Martin en vint à s'interroger sur le bien fondé de sa popularité. C'étaient les bourgeois qui achetaient ses livres et remplissaient sa bourse. Or, d'après le peu qu'il savait d'eux, il lui semblait impensable qu'ils pussent apprécier ou seulement comprendre ce qu'il écrivait. L'idée qu'il se faisait de la beauté n'avait aucun sens pour les centaines de milliers de lecteurs qui l'acclamaient. Il n'était que la coqueluche du moment, l'aventurier qui avait pris le Parnasse d'assaut sous l'œil bienveillant des dieux. Le public qui tressait ses louanges était le même qui avait foulé aux pieds l'éphémère de Brissenden, une horde de loups qui se couchaient devant lui au lieu de le mordre. Caresses et coups de croc se jouaient à pile ou face. Une seule chose était certaine, l'éphémère, était infiniment supérieur à tout ce qu'il avait écrit, infiniment supérieur à tout ce qu'il avait en lui. C'était le poème du siècle. En d'autres termes, c'était un hommage sans valeur que lui rendait la foule, puisque cette même foule avait roulé l'éphémère dans la boue. Il soupira profondément. Il était satisfait. Le dernier manuscrit était vendu, et tout cela serait bientôt terminé.